Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre à terre, dynamique et passionnée. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, placement, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 108 du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir pour la deuxième fois cette année notre collaborateur CFL, Pablo Herrera Vergara de Three Down Nation. Ça va bien, Pablo?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ça va très bien, merci. Je te reçois pour parler du début de la saison des Alouettes jusqu'à présent. On est juste avant le tiers de la saison. Les Alouettes profitent maintenant de leur première semaine de congé. On va décortiquer le calendrier jusqu'à présent, les bonnes performances, ceux qui en arrachent un petit peu plus depuis le début de la saison. On va vraiment revenir sur ce qui a marqué les cinq premières rencontres jusqu'à présent de nos Alouettes. Ensuite, on va faire une petite ouverture sur ce qui s'en vient, sur ce qui attend l'équipe dans les prochaines semaines. Aussi sur les foules cette année dans la CFL, ça fait quand même beaucoup parler. À Montréal, ça va bien, mais ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on terminera l'épisode avec ça. Commençons avec un petit résumé là, des cinq premières semaines. Là, les Alouettes à la semaine 1, une victoire de 28-10 contre Toronto à la maison. Semaine 2, victoire de 39-18 à Ottawa. Semaine 3, victoire de 38-28 à Edmonton. Semaine 4, défaite de 35-17 à Hamilton. Et semaine 5, une défaite de 21-20 contre les Lions à la maison. Donc, après un excellent début de saison, tout comme la fin du dernier match contre les Lions, on peut dire que les dernières semaines ont été quand même tumultueuses.
Ouais, tu l'as dit, les Alouettes ont vraiment bien commencé ça. Puis je pense que c'est important de le souligner parce que, même, oui, c'est vrai, maintenant, c'est la semaine de congé, les Alouettes viennent d'enchaîner deux défaites de suite, mais il ne faut pas oublier que les trois premiers matchs ont été excellents, puis surtout les trois premiers matchs ont été joués par Davis Alexander. Ouais. Puis les deux derniers, évidemment, le KRR, c'est la pièce maîtresse d'une équipe, puis c'était McLeod, Bethel, Thompson dans la formation. Puis c'est sûr que ce n'est pas les résultats qu'on aurait espérés, mais ce n'est pas la fin du monde non plus, sachant que Davis Alexander devrait revenir pour le prochain match. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'était un excellent début de saison. On avait du football complémentaire. On avait l'attaque qui jouait bien, la défense qui jouait bien, les unités spéciales qui contribuaient aussi de différentes façons, ce qui faisait en sorte que les Alouettes avaient du succès. Puis depuis deux matchs, ça a été plus difficile pour l'attaque. Puis la défensive, on a vu les limites. On a une très bonne défensive à Montréal, mais on sait qu'elle n'est pas capable de tout faire sur un terrain.
Il y a, comme tu as dit, il y a eu des hauts et des bas. Par exemple, contre Hamilton, le jeu au sol a été absolument inexistant. La défensive des Tiger Cats a réussi deux touchés aussi. Tu parlais de Bethel Thompson qui est venu en relève à Alexander. Ça a été compliqué. 24 en 41 et 203 verges. Un touché, deux interceptions contre Hamilton. C'est un petit peu repris contre les Lions dans un match un petit peu plus défensif, là, mais n'a quand même pas fait ce qu'il fallait pour remener son équipe à la victoire. Donc, des bons moments, des moments un petit peu plus difficiles à l'approche de cette semaine de congé là, de que les joueurs vivent en ce moment. Qu'est-ce que, selon toi, comment les joueurs, quel état d'esprit les joueurs ont quitté pour des vacances, probablement. Il y en a qui sont clairement retournés chez eux aux États-Unis, d'autres qui ont peut-être pris des petites vacances. De quelle manière tu penses qu'ils ont ruminé les deux dernières défaites? Et qu'est-ce qui, selon toi, va être une des priorités pour Coach Moss pour la première semaine de pratique la semaine prochaine avant le prochain match? On sait que l'équipe doit être beaucoup plus disciplinée, ça a fait très, très mal aux Alouettes, principalement contre les Lions la semaine passée. Donc, l'état d'esprit des joueurs puis la priorité de Coach Moss, selon toi?
Ben, l'état des joueurs, je pense qu'on est parti là avec un goût amer définitivement. On part avec, dans une semaine de congé où t'sais, on aurait pu avoir vraiment les commandes solides de l'association Est dans la Ligue canadienne avec une fiche de 4 victoires et une défaite. Au lieu de ça, on se retrouve à 3 et 2 avec les Tiger Cats qui sont à une victoire en fin de semaine contre le Rouge et Noir de prendre le premier rang de la division. Donc, je dirais que c'est la première fois depuis 2023 vraiment qu'on a de l'adversité pendant une saison régulière. 2023, c'est là que les Alouettes étaient allés chercher leur coupe Grey. Puis on se rappellera, il y avait une séquence de défaites en milieu de saison où ça s'était replacé à la fin, mais il y avait un moment donné, on avait perdu 3, 4, 5 matchs de suite. Donc du côté des Alouettes, il y avait des moments difficiles, puis on a trouvé le moyen de se relever. Je pense qu'on est rendu là. Puis cette équipe-là, pour moi, est beaucoup plus mature pour ne pas justement tomber dans une glissade aussi profonde qu'en 2023, puis de se relever. Puis après deux défaites, c'est important justement de repartir à zéro, puis de se dire on repart sur les bonnes bases qu'on avait, on revient avec notre carrière, puis on revient à la recette qui avait très bien fonctionné lors des premiers matchs. Puis tu l'as vu dans les deux derniers matchs. Défensivement, on a quand même joué des bons matchs, mais c'est sûr qu'on peut pas faire des touchés défensifs à tous les matchs. On peut pas demander à James Letcher de faire des retours de beauté à tous les matchs non plus. Donc, c'est là qu'on se rend compte que ça prend une complémentarité dans cette équipe-là, malgré le fait que je le dis souvent. Puis, écoute, je pense que je passe ici deux, trois fois par année. Puis, à chaque fois, je le dis, l'argent de ma dernière match au-dessus, la majorité est investie dans la défensive.
Ouais.
Mais ça prend quand même un peu d'attaque si on veut gagner un match. Puis, dans les derniers matchs, c'est ça qui a manqué. Puis, ça, pour moi, c'est ça la priorité de Jason Moss. C'est lui le coordonnateur. Oui, c'est pas nécessaire. Excuse-moi. C'est lui qui est le sélectionneur de jeu. C'est pas le coordonnateur offensif, mais c'est lui qui sélectionne les jeux. Donc, tu sais, c'est entre ses mains aussi de trouver les bonnes combinaisons, justement, pour revenir à une attaque plus dynamique, plus constante surtout. Puis, je pense que c'est vraiment ça le focus de Jason Moss en revenant de vacances, en fait, la semaine prochaine.
Avant d'y aller d'un tour d'horizon un petit peu plus global des performances individuelles des joueurs des Alouettes jusqu'à présent, on va faire un petit parallèle avec ce qu'on retrouve dans le hockey de la LNH. J'ai demandé de me donner tes 3 étoiles pour les 5 premiers matchs de la saison. Mais de l'autre côté de la médaille aussi, je voulais avoir les 3 joueurs qui t'ont déçu. Là, c'est sûr que on pourrait parler de ceux qui ont connu des performances un petit peu plus difficiles. On a Bethel Thompson en tête. On peut penser un petit peu plus tard, exemple, à un Stevie Scott ou des joueurs de ce genre-là. Par contre, nos attentes n'étaient pas nécessairement grandes envers ces joueurs-là. Donc, ça va être 3 joueurs qui te déçoivent par rapport à la perception que tu avais d'eux et aux attentes que tu avais envers eux en fonction de leur importance au sein de l'équipe. Commençons par les 3 étoiles. Donc, tu as nominé le carrière, évidemment, Davis Alexander, le secondaire Tyrese Beverett et le joueur de ligne défensif Isaac Adeyemi Berglund, le Canadien. Commençons par Alexander. En 3 matchs, 803 verges par la passe, 5 touchés, 2 interceptions, une cote d'efficacité de 116,1, ce qui est excellent. Je sais qu'à la suite du camp d'entraînement, tu avais quelques... Disons que tu avais hâte de le voir jouer en saison régulière. Tu avais quelques attentes à son endroit. Ça n'avait pas été les meilleures semaines de préparation pour lui. Mais il a très rapidement là, fait fi de toutes les petites inquiétudes de son côté. Il a démontré qu'il pouvait être un grand corps numéro 1 dans cette ligue-là.
Oui, tu l'as dit, un très bon corps dans cette ligue-là. Puis, tu sais, l'échantillon, malgré tout, c'est assez intéressant parce qu'il n'a toujours pas perdu un match comme partant. Dans la Ligue canadienne, ce qui est assez incroyable de son côté. Moi, ça va être les moments les plus difficiles que c'est là qu'on va voir justement un autre visage de Davis Alexander, justement. Mais pour l'instant, tu l'as dit, il se débrouille extrêmement bien. Il joue comme un carrière numéro 1 dans cette ligue. Puis, non seulement comme un carrière, mais comme un très, très bon carrière numéro 1 de cette ligue-là. Puis, vraiment, tu l'as dit, c'est pas que je croyais pas en lui ou quoi que ce soit. Je disais seulement que après le camp d'entraînement, ses performances étaient coup-ci, coup-ça. Puis je pense qu'il a rapidement prouvé que lui, c'est un gamer. Lorsque l'enjeu est là, plus l'enjeu est grand, plus il répond présent. On l'a vu dans le premier match de la saison. C'était pas le début qu'il voulait, mais il a tranquillement pas vite, il s'est accroché, il est allé chercher de la confiance, puis à partir de ce moment-là, il n'a jamais arrêté. Deuxième match contre Ottawa, il a été très bon. Contre Edmonton, il a été chirurgical. Écoute, il a découpé la défensive d'Edmonton comme il voulait. Et ses statistiques de mi-temps, ça aurait pu être ses statistiques de fin de match tellement elles étaient bonnes. Donc, c'est pour ça qu'il a été nommé le meilleur joueur de la Ligue pour le mois de juin au niveau de cette cote PFF, qui est une cote un peu de stats avancées. Si je ne suis pas le plus grand fan de cette cote-là, moi, dans la vie, mais dans ce scénario, pour moi, c'était vraiment, pour moi, le meilleur joueur dans la Ligue canadienne pendant le mois. Donc, un honneur grandement mérité.
J'ai l'impression, Pablo, qui, mis à part peut-être le premier match, là, il n'a pas été à 100% lors des deux autres rencontres. On l'a vu être touché là, lors du match contre les Argos. Déjà là, on a eu une petite crainte. Il a manqué des pratiques par la suite. Finalement, il est tombé au combat. Donc, reste à voir si cette semaine de congé-là pourra faire en sorte qu'il revienne à 100%. Mais pour un joueur qui n'était pas, peut-être pas en pleine capacité physique, il a démontré de très belles choses. Passons au secondaire, Tyrese Beverett. On n'est pas surpris de le voir là, mais encore une fois, c'est le cœur de cette défensive-là.
C'est le cœur. Puis moi, c'est un joueur qui, malgré tout, c'est dommage parce qu'il est encore sous-estimé dans cette ligue, dans la Ligue canadienne. L'an passé, oui, il a été nominé comme joueur par excellence défensif. Il a été finaliste, il a perdu. Puis ça, c'est venu le chercher. Puis ça l'a encore plus motivé cette année à peut-être aller chercher cette couronne-là, si on veut, à la fin de la saison. Mais il est vraiment dominant. Il frappe tout ce qui bouge, il est partout. Puis lui, c'est pas nécessairement le gars qui va réaliser des interceptions extraordinaires, mais c'est le gars qui est tellement efficace, puis qui est tellement bien placé. Il rate rarement des plaqués, mais puis il punit l'adversaire quand il faut. Donc pour moi, c'est un joueur complet qui vraiment est le visage de cette défensive-là. Sans lui, je pense que cette défensive-là est vraiment pas la même. Puis oui, on parle beaucoup de Darnell Sankey qui est excellent, mais pour moi, Tyrese Beverett est encore une coche plus importante que cette année. Parce que Darnell Sankey est très bon, il arrête les courses, il est solide, tout ça. Mais lorsque le jeu va vers l'extérieur, lorsque justement c'est le temps de justement d'être un peu plus athlétique puis d'aller chercher ces joueurs-là dans l'espace, ben Beverett est capable de le faire lui. Donc moi c'est vraiment ça que je trouve impressionnant de ce joueur-là. Il est complet puis il rend les Alouettes vraiment définitivement bien meilleurs.
Finalement, le Canadien Isaac Adeyemi Berglund, j'ai l'impression que c'est la version optimale qu'on pouvait attendre de ce joueur lorsque Danny Machocha est allé le chercher. Il avait mentionné qu'il l'avait beaucoup aimé à son année de repêchage. Finalement, il s'était retrouvé à Calgary. Ça a été des moments un petit peu plus difficiles à son arrivée à Montréal. Écoute, on a toujours besoin d'une période d'adaptation. Finalement, ça a été le cas pour lui en deuxième moitié de saison. Il a vraiment retrouvé ses repères. Il a été finalement connu une très bonne deuxième moitié de saison. Finalement, j'ai l'impression qu'il a pris une coche encore par rapport à la fin de l'année passée. Il est vraiment dominant sur le terrain.
Ouais, écoute, tu sais, moi, je travaille en finance, en économie aussi, puis on a toujours, des fois, on a trois scénarios. On a le scénario pessimiste, le scénario réaliste, puis on a le scénario optimiste. Dans son cas, je dirais même que c'est plus que le scénario optimiste, parce que quand on est allé chercher de Calgary, on savait qu'il était capable d'apporter une certaine pression, mais il est vraiment dominant cette année. Puis dans la Ligue canadienne, c'est pas facile pour un ailier défensif d'être dominant. On le voit, c'est tellement taxant physiquement de justement semaine après semaine aller chercher un carrière. Puis un des joueurs pour qui j'ai le plus d'admiration dans la Ligue, c'est Willie Jefferson qui le fait année après année. Je dis pas qu'Adeyemi Berglund a le niveau de Willie Jefferson à son meilleur, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais à sa façon, il est dominant. Puis il trouve le moyen d'être présent dans le champ arrière à tous les matchs, de déranger quand il faut. Puis des fois, ça a l'air de rien, mais c'est lui qui force le porteur de ballon à revenir dans le centre puis atterrir dans les bras de ses coéquipiers. C'est pas facile de faire ça. Puis lui, il le fait semaine après semaine. Puis j'ai hâte de voir justement à quel point est-ce qu'on va l'honorer cette année. L'an passé, il avait reçu des prix pour le joueur canadien de l'année. Exact. Mais cette année, écoute, on verra les résultats d'ici la fin de la saison, mais définitivement, il va être encore un candidat pour ce titre. Et honnêtement, c'est un autre joueur que je trouve sous-estimé à travers la ligue. On n'en parle pas beaucoup, mais
Vraiment.
il est vraiment efficace pour les Alouettes.
Maintenant, les trois déceptions. Bon, les gens risquent possiblement d'être un peu froissés, mais il faut voir les choses comme elles le sont. Il faut regarder la réalité en face. Certains de ces joueurs sont des favoris de la foule. Mais faut être de manière neutre pour voir la situation en face que ben, il y en a certains là-dedans qui connaissent des difficultés. Commençons avec le Québécois Marc-Antoine Decoy à la position de maraudeur. On l'a vu être en retard, voire carrément avoir la mauvaise affectation lors de couvertures défensives depuis le début de l'année. Et on le verra un petit peu plus tard, mais ça apparaît dans la tertiaire. La tertiaire des Alouettes n'est pas à son mieux et on n'a pas le choix de regarder Marc-Antoine Decoy comme l'un des premiers responsables.
Oui, puis avant tout, je pense que je tiens à dire le nombre de McLeod-Bethel-Thompson ne se trouvera pas parmi les trois que j'ai choisis parce que pour moi, l'échantillon est encore
C'est
trop
ça.
court, spécialement pour un carrière qui il vient d'arriver dans un nouveau système.
Les attentes étaient
Donc,
moins là, vraiment.
les attentes sont moins hautes dans son cas. Est-ce que je suis déçu de ses performances? Absolument. Puis on va avoir l'occasion d'en parler. Je suis déçu parce que les attentes quand tu joues pour les Alouettes de Montréal sont plus élevées que ce qu'ils nous offrent depuis deux matchs. Mais lorsque je regarde l'ensemble, je pense qu'il n'est pas, il est pas encore. Je ne l'ai pas considéré parce qu'il n'est pas là depuis assez longtemps pour que je puisse vraiment
Parfait.
avoir vraiment une vraie, vraie déception. Dans le cas de Marc-Antoine Lecoy, ce n'est pas une immense déception, mais c'est quand même une déception pour moi cette année parce que tu l'as dit, en retard sur des couvertures, ça peut arriver. Le dernier match, on l'a vu, il est tombé, ça arrive, ça peut arriver. Mais souvent, lui arrive hors contrôle sur des plaqués. Puis moi, c'est ça que je trouve. Puis ça date pas seulement de cette année, mais cette année, on le voit
C'est
encore
vrai.
plus parce que. Il arrive souvent, il est extrêmement rapide, Marc-Antoine Lecoy, on le sait, c'est une de ses plus grandes forces. Mais le problème, c'est que des fois, il arrive tellement en vitesse qu'une feinte, puis lui, il est parti. Puis tu le vois, cette année, ça fait mal parce que plusieurs plaqués ratés mènent à des gains de 10, 12 verges supplémentaires de la part du receveur. Puis ça, nécessairement, c'est pas quelque chose qui va nécessairement te sauter aux yeux quand ce que tu vas regarder l'ensemble d'un match. Mais quand tu additionnes tous ces petits morceaux, le fait qu'il y a des, tu l'as dit, il est en retard sur des couvertures, il se fait battre, il s'est fait battre quelques fois, c'est depuis le début de l'année dans les zones profondes. On a parlé du match contre, ben en fait, le match contre Hamilton, il s'est fait battre. Le match contre les Lions, il s'est fait battre aussi. Puis tu le regardes, contre le match contre les Lions, tu sais, si un jeu où il faut que tu sois vraiment concentré, pas perdre l'équilibre, c'est bien ce jeu-là parce que le demi-coin qui d'habitude couvre Stanley Benrehill, c'est dirigé vers le carrière. Donc, il savait, Marc-Antoine Lecoy savait qu'il était tout seul, un contre un contre le receveur. C'était maraudeur contre receveur. Puis justement, s'il y a un jeu où tu ne peux pas tomber, ben c'est celui-là. Puis malheureusement pour lui, il est tombé. Donc, je pense que la saison est encore jeune. Il a le temps de justement prendre. T'sais, de prendre le rythme dans cette saison-là, je ne suis pas en train de dire que c'est fini pour moi, tout
C'est
ça,
pas
vraiment,
fini,
vraiment
ouais.
pas. Mais c'est juste que pour moi, depuis le début de la saison, c'est un joueur qui est capable d'en donner plus.
Et pour le deuxième joueur sur cette liste de déceptions, ben, on fait un lien direct avec de quoi, parce que c'est un autre membre de la tertiaire. On parle ici de Lorenzo Burns, qui a manqué un match quand même jusqu'ici cette saison, mais pour un joueur qui avait connu un bon camp d'entraînement. Une bonne fin de saison l'année passée aussi, on s'attendait à plus, là.
Ben écoute, lui, c'est particulier parce que dans le fond, son premier match était excellent. Si tu regardes son premier match, il était superbe contre Toronto. Il a fait une interception, il a fait ce qu'il avait à faire pour être un joueur dominant dans cette tertiaire-là. Le problème, c'est que depuis, vraiment, on a vu un joueur complètement différent. On a vu un joueur qui se fait battre dans les couvertures, dans les zones profondes. Puis, t'sais, les jeux de mots avec son nom de famille qui est Burns sont très faciles à faire dans son cas. Mais t'sais, s'il y a des jeux où tu ne peux pas te faire battre, ben, t'sais, lui, il ne peut pas se faire battre dans les zones profondes comme il a donné des longs gains depuis le début de l'année. Puis lors du dernier match, ben, il a pas joué parce qu'il était blessé à une épaule. Écoute, même, je pense, même s'il avait été en santé, l'ajout de Deontay Ruffin, qui était quand même très bon l'an passé, je pense qu'il serait passé devant lui dans l'échiquier parce que, t'sais, comme je l'ai dit, il a connu un excellent premier match. Puis tu regardes ça, puis j'avais certains de mes collègues qui me disaient que j'étais trop dur avec lui, mais tu regardes le premier match, oublie le premier match, regarde la suite du calendrier, puis tu vois qu'à presque tous les matchs, il y a de la misère justement à suivre un receveur, surtout quand c'est du 1 contre 1 sur les lignes de côté, puis que le receveur revient, son accélération pour freiner puis repartir. Et pour moi, il manque un petit peu de
Ouais, manque un
gaz
peu de
parce que
vitesse, d'explosion.
souvent le receveur, il gagne très facilement. Il n'y a même pas besoin de faire un attrapé contesté. Il fait juste se retourner, il attrape le ballon. Donc, je pense que Lorenzo Burns, c'est un autre qui, pour moi, la saison est loin d'être terminée dans son cas, là, puis il va avoir énormément d'opportunités de surprendre. Mais c'est un joueur pour moi qui aurait pu et qui peut en donner plus à cette équipe-là.
Finalement, et on va nommer le nom d'un favori de la foule encore une fois. On se passe de l'autre côté du ballon. La position de receveur de passe, Austin Mack. Et c'est intéressant parce que lors de notre dernier épisode, tu avais mentionné que Mack allait devoir faire une adaptation quant à ses attentes par rapport à l'équipe, une nouvelle utilisation sur le terrain aussi. Donc, il est blessé, il a manqué les deux derniers matchs de l'équipe. Quand même eu un impact positif sur le terrain. Est-ce que on s'attend de lui d'être le grand meneur de ce groupe de receveurs-là? C'est peut-être là où il a perdu des points de ton côté, mais je suis curieux de savoir pourquoi il se retrouve dans tes trois déceptions.
Ben écoute, c'est une raison un peu différente que les autres, parce que les autres, c'est vraiment lié plus aux performances. Mais tu regardes Austin Mack, je ramène à l'an passé, il a signé un contrat pour finir la saison, puis il a paraffé une grosse entente, il a rajouté 4 années à son contrat pour justement être un Alouette, pour s'installer à Montréal, pour y vivre et tout ça. La saison dernière arrive en fin de saison, joue un match, se blesse à l'entraînement, je l'ai vu se blesser devant moi à l'entraînement, rate énormément de rencontres, revient en fin d'année, il n'est pas nécessairement au sommet de son art. Puis on l'a vu, même en finale de l'Est, il a connu un match correct, mais si ce n'était pas le Austin Mack dominant qu'on avait vu en 2023.
Non.
Puis là, cette année, honnêtement, au niveau d'accepter son rôle, je pense qu'il a très bien fait de ce côté-là. Puis je vais revenir ça dans quelques instants. Mais la déception, c'est plus au niveau des blessures, encore une fois. Il joue trois matchs, en fait. Puis encore une fois, se blesse. Puis là, il se blesse à un entraînement, à un ischio. Est-ce que c'est une question de préparation physique? Je ne sais pas. Mais pour
On
moi, ce
fragile,
gars-là,
ouais.
il est payé. On lui a donné un contrat de 4 ans. On s'est dit, lui, on va bâtir autour de ce joueur-là. Puis non, les contrats ne sont pas garantis dans la Ligue canadienne, que les Alouettes pourraient décider de le libéré demain matin, puis il n'y aurait pas de conséquences niveau salarial, niveau sur la masse salariale de l'équipe pour les prochaines années, parce que comme je l'ai dit, aucun contrat est garanti dans la Ligue canadienne. Mais tu veux bâtir autour de ce gars-là, tu veux qu'il soit la pierre angulaire de ton attaque, puis malheureusement pour lui, peu importe les raisons, mauvaise préparation, pépin physique non réglé durant l'entre-saison,
Ouais.
il n'est pas capable de rester en santé. Puis moi, c'est ça la déception
C'est
du côté
décevant.
d'Austin Mack, parce que comme je l'ai dit, puis je vais revenir là-dessus parce que j'en avais parlé dans l'émission avant la saison, j'avais hâte de voir si elle a accepté son rôle. Puis pour moi, il l'a fait à merveille. Oui, il a échappé quelques ballons ici et là, mais c'est un joueur qui est fiable, puis qui a été fiable dans les zones intermédiaires. Je t'en avais parlé. Ça prend un gars qui va chercher les ballons des 10, 12, 15 verges. Puis Austin Mack le faisait depuis le début de la saison. Il a accepté son rôle. C'est pas un gars qui allait gruger un 40 verges, tout ça. Il l'a fait contre Ottawa lorsque le match était presque hors de portée. Mais tu voyais que Ottawa, il restait plus rien. Mais sinon, c'est des passes de 12, 13, 15, 17 verges qui a accepté justement de recevoir puis de se faire frapper. Puis il a accepté de le faire. Puis on l'a vu lors des 2 derniers matchs. Ça a manqué des passes comme ça. Tu sais, des situations de deuxième essai et 10 à convertir. Ben, on se tournait toujours vers Austin Mack dans les premiers matchs. Il n'est pas là non plus, donc dans les 2 derniers. Donc, ça fait mal aussi à
A
l'équipe,
vraiment
parce que c'est un
manqué,
joueur qui, pour moi, a accepté son rôle. Puis honnêtement, je le salue pour ça. C'est pas facile de justement d'aller chercher ces verges-là, d'accepter justement de jouer plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il le fait très, très bien. Malheureusement pour lui, pour moi, c'est la déception, c'est justement le fait qu'il ne soit pas capable de rester en santé. J'ai hâte de voir si ça va être quoi la suite de sa saison, mais pour moi, il faut qu'il demeure en santé. C'est parce que pour moi, il est important cette attaque-là, puis
il est
je tiens à le
très
mentionner.
important, oui. Il semble être un bon coéquipier aussi, là, très content lorsque ses coéquipiers ont du succès, font un toucher, est toujours un des premiers à venir célébrer. Donc, ça, c'est positif. Passons d'un point de vue un petit peu plus global, là. Commençons sur les performances individuelles. Commençons avec l'attaque. On a déjà parlé de la position de corps arrière. Passons à la position de porteur de ballon. Donc, on avait mentionné les trois porteurs, là, Sean Thomas Lincoln, Travis Theis et Stevie Scott. Commençons avec Thomas Lincoln qui a eu, on peut le dire, là, trois bons matchs sur cinq. On espère dans son cas que ce ne sera pas un ratio 1 sur 2. Donc, contre Toronto, Edmonton et la Colombie-Britannique, un seul toucher au sol. Et pas par match, donc ça a quand même bien été. Ça n'a pas été un facteur lors des deux autres rencontres. Du côté de Travis Theis, dans le seul match où il a réellement été utilisé, là, donc c'est-à-dire plus de 10 courses, il a réussi 75 verges, donc ça s'est très bien passé. Et dans le cas de Stevie Scott, bien, comme prévu, ce n'est pas vraiment un facteur, là. En deux matchs, il y a une moyenne de 2,2 verges par course. Donc, on l'a vu faire des petites choses intéressantes, mais globalement, il ne nous donne pas grand-chose. Donc, on peut être satisfait de Thomas Lincoln. On voudrait avoir un petit peu plus de constance et je pense qu'on aimerait avoir un petit peu plus de Travis Theis aussi.
Ben écoute, je vais commencer par Sean Thomas Lincoln parce que ton point est intéressant. Tu sais, moi, mes attentes envers Sean Thomas Lincoln n'étaient pas si hautes, considérant le fait qu'il a pas été partant dans cette ligue-là depuis
C'est vrai.
2021. Puis, depuis 2021, il est 4 ans plus vieux. Donc, c'est pas évident. Puis, surtout, son style de course, c'est les courses en puissance nord-sud. J'avais des questionnements. Puis, honnêtement, il m'a agréablement surpris. depuis le début de la saison. Puis, tu as mentionné les matchs où justement, il n'a pas été un facteur. Je pense que Jason Moss doit se regarder un peu dans le miroir pour ça. Parce que contre Hamilton, on a tout simplement abandonné le jeu au sol. On a décidé de faire confiance au Brown McLeod, Bethel Thompson, mais je l'ai dit, oui, c'est sa force, mais dans un nouveau système, nouveau receveur, tu sais, court avec le ballon. Puis surtout que tu as eu du succès depuis le début de la saison. Tu sais, je veux dire, on avait même habillé les trois porteurs de ballon pour le match. Écoute, ouais. McLeod Bethel Thompson a été le meilleur coureur de l'équipe pendant ce match-là. C'est pas normal. C'est pas censé arriver. Mais bon, je ferme la parenthèse sur ce match-là. Mais pour moi, Sean Thomas Lincoln est un facteur positif. Puis ce style de course, pour moi, écoute, des fois, on l'a vu contre les Lions l'autre jour en début de match. Il est sorti de nulle part pour aller chercher un 10, 15, 20 verges supplémentaires. Puis, chose que je tiens à dire, c'est vrai, on ne voyait pas avec Walter Fletcher. C'était des courses plus vers le périmètre. On voulait exploiter un peu plus la vitesse de Fletcher sur les côtés. Ouais. Mais tu sais, des courses en puissance, ça marche depuis le début de la saison. Puis, chapeau quand même à la ligne à l'attaque qui est quand même capable d'ouvrir des brèches pour les porteurs de ballon depuis le début de la saison. Je tiens à le dire, de ce côté-là, c'est mieux. On a fait une progression par rapport à l'an passé. J'avais des questionnements au début de la saison. Chapeau à Luc Brodeur-Jourdain, chapeau à son unité, parce qu'on m'a fait mentir depuis le début de l'année, ça marche les courses. Ça marche à un tel point où tu l'as dit, on aimerait ça en voir plus, puis j'aimerais en voir plus de Travis Tice qui, pour moi, c'est une petite boule d'énergie, un joueur fait pour la Ligue canadienne. Est-ce qu'il va avoir une longue carrière? Je ne sais pas, parce que son style de course est extrêmement demandant, surtout qu'il n'est pas un gros bonhomme, c'est un petit bonhomme. Il est explosif, puis lui, il frappe tout ce qui bouge, finit les plaquets. D'ailleurs, il a raté un match par une blessure, en raison d'une blessure. Donc, est-ce que sa carrière va être longue? Je ne sais pas, mais justement, il faut profiter du fait que Tice est en santé. Il faut lui donner le ballon. Il est capable de courir très, très, très bien, puis ça paraît peut-être pas, mais il brûle les défensives. Quand ça prend 5-6 joueurs pour te faire tomber, ben ça prend justement 5-6 efforts consécutifs, puis après ça, tu recommences, puis à un moment donné, une défense se tanne, puis c'est là que les trous arrivent. Puis, moi, Jason Moss, je sais que c'est un coordinateur offensif qui adore faire des passes. D'ailleurs, j'adore les passes, je pense que la Ligue canadienne s'est fait pour ça. Mais lorsque tu as un jeu au sol qui fonctionne, surtout dans cette ligue-là, il faut que tu t'en serves. Pour justement enlever un peu de pression à ton jeu de passe qui, honnêtement, depuis deux matchs, en arrache. Donc, moi, j'aimerais en voir plus et de Sean Thomas Arlington et de Travis Tice. Puis la dernière chose que je vais ajouter, si tu permets, Étienne, on donne depuis le début, depuis le début de la saison, des fois on donne une séquence à Sean Thomas Arlington, on donne une séquence à Travis Tice, des fois on revient avec deux séquences de Sean Thomas Arlington. J'aimerais ça qu'on combine les deux. T'sais, j'aimerais ça voir une séquence où justement, on sort Sean Thomas Arlington, on ramène Travis Tice pour une course. T'sais, mais c'est souvent le même porteur de ballon pendant toute la séquence. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est un problème parce que les deux ont le même style. On peut utiliser le même type de course, le même type de schéma pour les deux porteurs de ballon, mais chaque fois, on est une séquence l'un, une séquence l'autre. Moi, je trouve que ça peut couper un peu de rythme. T'sais, si tu amènes un joueur, tu permets à Sean Thomas Arlington d'aller boire de l'eau, ramène Travis Tice dans la mêlée. Tu ramènes Sean Thomas Arlington, il a les jambes fraîches, il est prêt à courir encore. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais voir de Jason Moss. C'est pas seulement, tu donnes une séquence à un joueur, puis après ça, tu vas avec un autre, puis tu reviens avec lui. Non, c'est capable, je pense. Surtout que les porteurs de ballon, après les longues courses, c'est fatigué. Fais plus de substitutions, puis permet à Travis Tice de donc ça, c'est mon message pour Jason Moss.
Et c'est ce qu'on aimerait voir, un petit peu plus de dynamisme, de créativité dans la sélection des effectifs pour ce qui est des porteurs de ballon. Au niveau de la ligne en attaque, là, on ne s'attendra pas trop longtemps. Tu en as parlé un petit peu, efficace contre la course. En protection, on a eu des bons moments. Ça a été un petit peu plus difficile lors de d'autres. On a eu la blessure de Nick Callender du côté gauche. À part ça, on a quand même eu de la stabilité. On a eu des débuts difficiles pour la recrue Ventrelli. Au total, ça a vu 3 sacs alloués contre Toronto, 1 contre Ottawa et Edmonton, et 2 contre Hamilton et BC. Donc, en tant que groupe, ça a bien été par moment. On est capable de se resserrer un petit peu, mais somme toute, c'est mieux qu'à pareille date l'an passé. Là.
Oui, puis oui, c'est mieux. J'ai le goût de dire que c'est mieux, mais en même temps, pendant les trois premiers matchs, on avait un coureur qui est capable de mieux sortir de la pochette que Cody Fajardo l'an passé.
Échapper beaucoup la pression.
C'est, exact. Donc, c'est difficile vraiment de... Comment je dirais ça? De faire une excellente évaluation parce que c'est pas le même type de carrière qui est derrière. Puis d'ailleurs, on l'a vu avec McLeod Bethel Thompson. C'est plus difficile, mais en même temps, Cody Fajardo est entre les deux. T'sais, il est plus mobile que Bethel Thompson. Il est moins mobile que Davis Alexander. Donc, dans tous les cas, c'est difficile de faire une évaluation réellement de la ligne à l'attaque au niveau de comment je dirais ça, de la protection en tant que telle. Mais définitivement, je pense qu'on a un meilleur effort, puis une meilleure unité. Donc, on est capable de travailler ensemble de meilleure façon. J'aime énormément des blocs où justement le joueur de centre va aider un petit peu le garde, puis après ça, va au deuxième niveau. Je pense que des petits détails comme ça sont beaucoup mieux réalisés cette année. Puis moi, là où on voit vraiment de l'amélioration, si je l'ai dit, c'est au niveau du jeu au sol. On est vraiment capable d'ouvrir des brèches. Je regarde souvent les reprises. Quand je regarde le match au stade, j'ai toujours le match sur un autre écran parce que je veux voir les reprises, je veux voir justement les trous qui ont été créés. Puis sérieusement, la ligne à l'attaque fait du très bon travail de ce côté-là. Maintenant, niveau protection, tu l'as dit, si McLeod Bethel-Thompson devait jouer un autre match cette année, il faut que cette ligne-là comprenne que McLeod Bethel-Thompson, il ne pourra pas échapper à la pression.
Il a besoin de plus de temps dans sa
place. Si tu as un meilleur match à donner, ben c'est quand Bethel-Thompson est là. Puis contre Hamilton, je pense qu'on l'a laissé aussi un peu tomber de ce côté-là. Aussi, donc la pochette se refermait extrêmement rapidement sur le corps arrière. Puis Davis Alexander, il est capable un peu de camoufler ses problèmes de ligne à l'attaque. On n'a pas parlé de ligne à l'attaque pendant les trois premiers matchs de l'année parce que Davis Alexander était capable
il
de
a fait
de
bien pareil. Ouais.
Mais je l'ai déjà dit, puis il va arriver des moments où justement Davis Alexander va être plus fatigué dans un match. Il ne pourra pas toujours sortir de sa pochette et s'échapper. Donc, niveau ligne à l'attaque, c'est mieux. Est-ce qu'il y a encore une marge à l'amélioration définitivement? Ah, mais je pense qu'on a pris un pont dans la bonne direction en ce début de saison, définitivement.
Finalement, la position de receveur de passe, on a déjà parlé de Mac, mais on peut nommer Tyler Snead et Tyson Philpott comme ceux qui se sont démarqués. On aimerait en voir un petit peu plus de Charleston Rambo. Ouverture aussi vers une signature intéressante que celle de Alex Hollins. Deux dernières saisons avec BC, les Lions. 937 verges et 1173 captés. Des saisons de 9 et 6 touchés. Donc, c'est un gars qui a été super productif. Il est âgé de 28 ans. Un autre receveur avec un format un petit peu plus petit. Donc, j'aimerais avoir ta perspective sur cette signature qui s'est faite il y a une dizaine de jours environ, là, peut-être deux semaines. Donc, à quoi tu t'attends du fait qu'on amène Hollins et qu'il ressemble, il a un profil similaire déjà à des joueurs qu'on a avec les Alouettes et qui font bien?
Et écoute, son addition est intéressante parce que tu l'as dit, c'est un joueur qui est allé chercher beaucoup de verges dans les dernières saisons. La raison pour laquelle il était sans contrat depuis le début de la saison, puis pour laquelle les Lions l'ont laissé partir, c'est que c'est un joueur qui commence extrêmement bien les saisons. Tu regardes les 10 premiers matchs de l'année, tu dis ce gars-là, c'est le meilleur receveur de la Ligue. Puis malheureusement, lorsque le froid arrive, lorsque plus tu te rapproches du mois de novembre, plus tu te rapproches de la Coupe Grey, moins il
est frileux un peu.
Il est frileux, il perd ses batailles. Puis on l'a vu la saison dernière, les Lions avaient besoin de lui en série pour gagner, pour finalement se rendre jusqu'au bout, ben, parce surtout que le match était à Vancouver. Alexander Hollins n'a tout simplement pas livré la marchandise. Je regardais les reprises, il battait pas le demi de coin. Tu sais, en début d'année, il a l'air d'un joueur extraordinaire. Malheureusement, à la fin de saison, c'est là que ça devient compliqué pour lui. Par contre, lorsque les Alouettes sont allés chercher, on est vraiment allé chercher pour moi comme police d'assurance. Il y avait pas de contrat, il a accepté d'être placé sur l'équipe de pratique. Ouais. Donc déjà là, pour moi, c'est des signes que c'est vraiment une police d'assurance. C'est pas quelqu'un qui vient nécessairement voler. Exactement, c'est pas quelqu'un qui vient voler la job de quelqu'un. Lorsqu'on regarde en ce moment, oui, Austin Mack est blessé, puis lui, c'est l'ischio au janvier, puis on le sait, Davis Alexander, c'est aussi la même chose. Puis je le sais, pour l'avoir vécu, quand tu claques un ischio, c'est pas facile de revenir en une semaine. Tu sais, ça prend deux semaines avant te sentir plus à l'aise. Puis après ça, c'est des joueurs professionnels, donc ça prend du temps pour revenir à un niveau élite, pour surtout comme receveur où il faut que tu changes de direction à tous les jeux. Donc, d'après moi, si Austin Mack n'est pas prêt à revenir la semaine prochaine, si Alexander Hollins va obtenir son premier départ avec les Alouettes, si Mack est de retour, mais je pense qu'il va rester dans l'équipe de pratique. Puis ouais. Moi, je ne serais pas surpris d'ici la fin de la saison que si les choses se maintiennent de la même façon, on pourrait le libérer aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Comme je l'ai dit, aucun contrat qui est garanti dans la Ligue canadienne. Mais moi, pour moi, le fait qu'il ait accepté de demeurer dans l'équipe de pratique, pour moi, ça en dit beaucoup sur justement où on est le joueur dans sa carrière, puis qu'est-ce que le joueur est prêt à faire à Montréal. Puis si lui est prêt à rester sur l'équipe de pratique jusqu'à la fin de la saison, je pense que les Alouettes ne se plaindront pas. C'est un très, très bon receveur.
Belle police d'assurance.
Servir, mais je le dis souvent. Puis moi, tant que je ne le verrai pas performer dans le mois d'octobre puis au mois de novembre, pour moi, ce n'est pas le joueur sur lequel tu peux te fier pour gagner des matchs de séries éliminatoires. Puis, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui, tu regardes les statistiques, la majorité des verges, il est allé les chercher dans les 19 premiers matchs de la saison. Le trois quarts, au moins, je n'ai pas fait le calcul, mais au moins les trois quarts, il est allé les chercher dans les 9 premiers matchs de la saison. C'est juste vraiment la fin qui se gâche dans son cas. Donc, c'est pour ça, d'après moi, qu'il n'y avait pas d'emploi puis que les Alouettes, ben, ils ont profité pour aller le chercher, justement.
Au niveau de la défensive, ben là, on a parlé un petit peu de la tertiaire en passant par Marc-Antoine Lecoy et Lorenzo Burns. Dans les deux défaites et même dans la victoire contre Edmonton, les corps arrière, les receveurs ont connu beaucoup de succès. C'est 7 receveurs différents qui ont récolté plus de 50 verges, donc 4 plus de 85 depuis le début de la saison. Donc, la tertiaire a connu des difficultés. Un point qui est très positif, ben, c'est la performance de la ligne défensive. Et ça n'a pas toujours été le cas. Dans les dernières années qu'on s'est parlé, Pablo, ça a souvent été un élément où on était un petit peu plus vulnérable. Mais là, on semble dominant sur tous les fronts. On se rend encore arrière. On en parlait tout à l'heure, là, mais Adeyemi Berglund, déjà 3 sacs. Oluguak en a 2. Une seule fois, on a concédé plus de 50 verges au sol. Donc, on se rend encore, mais on est très efficace contre le jeu au sol. C'était Rankin avec 76 contre Edmonton. Le nouveau venu, Sean Oakman, a un impact énorme, là, pas juste par sa stature, par ses performances aussi. Donc, la ligne défensive dominante aussi. Finalement, les secondaires, ben, c'est le cas là, de te parler de Beverett, de Sankey. Quentin Harcourt fait des gros jeux. Il a été nommé joueur de la semaine à une reprise depuis le début de la saison. Jawan Molden continue de s'acclimater à la Ligue canadienne. Donc oui, la tertiaire, ça a un petit peu moins bien été. Au niveau des secondaires de la ligne défensive, ça va très bien à ce niveau-là. C'est ce qui fait en sorte que les Alouettes ont encore une des bonnes défensives du circuit. Là.
Pour moi, c'est encore la meilleure parce que c'est sûr que la tertiaire, il y a des jeux où on aimerait revoir. Tu sais, la fin de match contre Ottawa, pardon, tu sais, ou même contre Edmonton, tu sais, on semblait vraiment dans le cruise control. Donc, tu sais, c'est difficile d'évaluer vraiment la tertiaire à ce niveau-là. Mais contre Edmonton, on a raté des couvertures. Contre le Lyon, on a raté des couvertures. Donc, du côté-là, Northrop a de quoi travailler. Puis les joueurs qui sont en place sont capables de prendre une coche. Par rapport à leur niveau actuel. S'ils font, cette défensive-là va redevenir une défensive plus que dominante. Parce que tu regardes la ligne défensive, tu en as parlé, on a beaucoup plus de pression cette année, surtout dans les trois premiers matchs. T'sais, les deux derniers, on s'est un peu effacés. Puis le dernier, je vais me laisser un petit commentaire parce que pour moi, ça a été une déception de ce côté-là. Mais lorsque tu regardes l'ensemble, je pense que c'est beaucoup mieux. Sean Oakman apporte beaucoup sur les unités spéciales aussi. Il est capable de bloquer des bottés. Puis on l'a vu quand il joue avec les Argos, il l'a fait contre les Alouettes. Donc, tu sais, il est capable de bloquer des bottés avec sa stature 6 pieds 8, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Sean Oakman. Puis du côté des secondaires, je pense que tout a été dit depuis le début. Puis moi, je lève mon chapeau à un joueur qui, je ne croyais pas qu'il serait capable de remplacer Reggie Stubblefield, mais que depuis le début de la saison, il le fait très bien, c'est Najee Murray. Deuxième dans la Ligue canadienne à sa position pour le nombre de plaqués, avec 10 défensives cette année. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est un joueur qui frappe et qui frappe de la bonne façon surtout. Tu sais, c'est pas un joueur, on voit pas des joueurs passer à côté de lui. Tu sais, il est capable de bien suivre ses joueurs. Moi, c'est une des belles surprises. J'aurais pu l'inclure dans mes 3 étoiles, mais tu sais, c'est un joueur qui pour moi m'a agréablement surpris cette année. Puis dans le fond, puis le dernier commentaire que je voulais faire par rapport à la ligne défensive, moi le dernier match, pour moi, ça a été une déception parce que Nathan Rourke, carrière des Lions, revenait d'une blessure aux obliques. C'est une blessure qui s'est faite tout seul en lançant un ballon dans les zones profondes dans un match contre Winnipeg. Il revient de blessure. Le joueur est fragile. On n'a pas été capable de le toucher du match. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé dommage parce que si les Alouettes avaient trouvé le moyen de frapper Nathan Rourke plus souvent, il n'aurait pas été aussi confortable qu'il l'a été, surtout pas en fin de match. Puis peut-être que là, ça aurait joué en faveur des Alouettes pour justement être capable de gagner ce match-là. Mais on l'a pas touché du match. Si tu regardes ça, on l'a à peine effleuré. Je veux dire, moi, c'est clair que ça aurait fait partie de mon plan match de le déranger, de le frapper pour voir justement à quel point il était solide. Mais comme je l'ai dit, c'est un point négatif dans une marée de points positifs pour cette ligne-là qui, pour moi, fait un très bon travail depuis le début.
Pour faire du lien là-dessus, sur justement la pression qu'on met sur les corps arrière, et là, je lance une ligne à l'eau, Pablo, là, je te prends un peu à court. J'ai aucune information là-dessus, c'est purement spéculatif. Est-ce que l'équipe pourrait tenter de ramener un Sean Lemon qui a récemment été, on lui a permis de reprendre ses activités dans la Ligue canadienne, donc il s'entraînait clairement de son côté, ne pouvait pas faire partie de l'effectif d'une équipe, et là, il a eu la permission de le faire. Il a souvent dit par le passé que pour lui, c'était les Alouettes ou rien. En bout de ligne, peut-être que le fait de ne pas avoir travaillé pendant quelques mois lui feront changer d'idée et qu'il voudra signer un contrat à quelque part. Mais est-ce qu'il pourrait, selon toi, y avoir de l'intérêt du côté de Danny Machocha de rapatrier un vétéran extrêmement important dans l'alignement qu'a été Sean Lemon?
Je pense que la question doit être posée à Sean Lemon lui-même parce que je ne vois pas les Alouettes signer un contrat à Sean, faire signer un contrat à Sean Lemon puis le voir partant dans une ou deux semaines. Non, ça va être un joueur qui, pour moi, va devoir accepter d'être sur l'équipe de pratique. Puis c'est là, pour moi, que c'est un peu comme Alexander Holland. Est-ce qu'il va accepter ça? Ouais, ou est-ce qu'il y a une autre équipe qui va dire « Non, si on t'embauche, on va te faire jouer sur l'unité. Tu vas être sur le terrain dans deux semaines. » Lui, d'ailleurs, il y a une suspension de deux matchs à combler lorsqu'il reviendra de toute façon. Mais encore là, est-ce que, même après deux matchs, est-ce que les Alouettes sont très bien nantis niveau ailier défensif cette année. Est-ce qu'ils vont justement se dire, OK, on peut-tu le mettre sur l'équipe de pratique? Puis si jamais un joueur se blesse, si jamais il y a un joueur qui ne performe pas bien, on va pouvoir l'embarquer. Écoute, je pense que poser la question, c'est d'y répondre du côté des Alouettes. La volonté va être là. Est-ce que du côté de Sean Lemon, tu l'as dit, est-ce qu'il va vouloir justement peut-être aller regarder ailleurs puis se dire, est-ce qu'il y a une équipe qui est prête à me dire, tu t'embarques sur le terrain, on te fait jouer la semaine, dans deux semaines? En fait, quand tu dis que tu es éligible, tu joues. Parce que je ne pense pas que Danny Machocha pourrait lui promettre ça.
Non, définitivement.
Ça a été un joueur très, très bon lors de la conquête des Alouettes en 2023. Mais là, on est rendu en 2025. Au milieu de l'année, on est au mois de juillet. C'est pas le type de promesse que Danny Machocha peut se faire regardant les performances de son équipe justement en ce moment. Donc, c'est un dossier à suivre intéressant. J'ai l'impression qu'il va réfléchir un petit peu à la question. Mais écoute, s'il est ouvert à ça, les Alouettes, leur prochain match, c'est le 17. Donc, techniquement, s'il le signe avant, peuvent justement lui faire purger son premier match le 17, puis après ça, ce serait le 24, puis on pourrait le voir justement au début du mois d'août, le 2 août à Montréal. On pourrait le voir en uniforme si les Alouettes décident justement de l'habiller. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense que la balle est dans le camp de Sean Lemon. Est-ce qu'il lui veut revenir? Mais ça va être aux conditions des Alouettes, parce que comme je l'ai dit depuis le début de la saison, on a de très bonnes performances, puis on a des joueurs qui sont arrivés, ils sont fraîchement nouveaux aussi, donc tu sais, des contrats qui coûtent moins cher aussi. Donc, j'ai hâte de voir cette situation-là, mais définitivement, je pense que les Alouettes sont ouvertes, c'est de voir maintenant si le joueur est aussi.
Ça serait excitant de voir tout de même, de voir le compte Facebook, Instagram, X des Alouettes juste publier un petit citron. On va comprendre très vite ce qui se passe.
Oui, en effet.
Passons sur ce qui s'en vient pour les Alouettes pour les 6 prochains matchs. On a dit tout à l'heure, là, il y a de la parité dans la Ligue. Là, Toronto et Ottawa sont à 1-4. Hamilton, qu'on attendait un petit peu moins, sont 2-2. Dans l'Ouest, tout le monde semble avoir une chance. Là, Edmonton, Saskatchewan est à 4-0. Calgary et Winnipeg à 3-1. Mm-hmm. Et jusqu'au prochain congé, qui sera à la semaine 13, on a 4 matchs à domicile, 2 à l'étranger. On se mesurera à quelques équipes de l'Ouest. Donc, on va avoir un match à Calgary et à Vancouver. Et on reçoit Saskatchewan, Winnipeg et Edmonton. Pour moi, Pablo, c'est oui, on affronte des adversaires de section un petit peu plus tard, mais le point tournant de la saison pourrait être là. Ça pourrait être là qu'on. Même si on sort avec une fiche négative, j'ai l'impression que la confiance va être un petit peu moins là, même si on peut se rattraper encore une fois avec des adversaires de section en fin d'année. Mais là, on a l'occasion de donner le ton contre des équipes qui sont très compétitives, celles de l'Ouest. C'est vraiment une séquence primordiale pour les Alouettes, là, celle du milieu de saison.
Écoute, tu as tout à fait raison. Je pense que la confiance de cette équipe-là, Oui, elle pourrait être affectée après, tu sais, si on poursuit la séquence de défaites. Mais pour moi, c'est une question tout simplement de revenir au standard. Tu sais, moi, je salue mon collègue Renaud Beaubonnet qui est hôte avec moi du podcast L'Envol, qui a écrit dans sa chronique sur la Ligue canadienne cette semaine, tu sais, une fiche de 3 victoires, 2 défaites, les attentes sont, tu sais, les standards sont plus élevés que ça à Montréal. Puis c'est vrai, puis tu sais, peu importe qui est au poste de corps, peu importe tout ça, les Alouettes sont une bien meilleure équipe que ce qu'ils ont démontré dans les deux dernières semaines. Puis justement, je pense que c'est juste vraiment de revenir au standard. Tu sais, on a parlé défensivement, la tertiaire, tu sais, on voyait pas ces problèmes avant, même dans les premiers matchs de la saison. Oui, ça arrivait en fin de match, mais bon, pour moi, ça compte pas, le match était fini. Donc, pour moi, c'est juste de revenir au standard. Puis même au niveau des unités spéciales, on a connu des ratés dans les derniers matchs. Est-ce que James Letcher est capable de marquer un chier sur le retour de beauté? Tu sais, ça va prendre un effort collectif.
Je pense que les trois côtés du ballon.
On se regarde dans le miroir, dire OK, ce qu'on a démontré dans les deux derniers matchs, c'était pas du football des Alouettes. C'était pas ce qu'on a démontré dans les dernières années. Puis si les Alouettes, pour moi, leur pire adversaire, c'est eux-mêmes. T'sais, oui, il y a beaucoup de compétitions dans la Ligue canadienne, puis t'as des bonnes équipes. T'as Calgary qui est 3 victoires et 1 défaite, Saskatchewan qui n'a pas encore perdu cette année, Winnipeg qui a juste perdu un match. Mais pour moi, le pire adversaire des Alouettes reste eux-mêmes. T'as suffisamment de talent dans cet alignement-là pour battre n'importe qui dans la Ligue. Donc pour moi, c'est juste une question que les joueurs doivent se regarder dans le miroir, puis de dire OK, on tourne la page, on a été mauvais pour finir ce bout-là. C'est important, on repart une nouvelle page, on repart une nouvelle histoire. Puis pour moi, les Alouettes, c'est bien qu'ils subissent de l'adversité comme ça en début d'année, parce que c'est mieux que ça arrive là que justement, comme un peu l'an passé, on était en cruise control jusqu'à la fin de la saison, puis là, oups, on s'est fait rattraper à la fin, puis on s'est fait même dépasser à la fin par les Argos. Donc, les Alouettes, c'est bien qu'il y ait de l'adversité, maintenant, c'est comment on va répondre, puis ça part par Jason Moss. Ça va être quoi le message en revenant à la semaine de congé? Ça va être quoi la semaine de préparation? Puis tous les joueurs nous ont dit, écoute, on a eu 2 semaines incroyables de préparation avant les matchs contre Hamilton et Colombie-Britannique. Au final, si ça ne paraît pas sur le terrain, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, les Alouettes vont devoir répondre en acte, puis pas avec des pénalités comme Pierre-Olivier Lesage, malheureusement, a commis lors du dernier match.
Ça va commencer lors de la semaine 7, jeudi, le 17, à Montréal. On reçoit à nouveau Toronto pour ensuite s'envoler à Calgary. Donc, ça... On voudra définitivement être de retour sur la bonne voie du côté des Alouettes. Terminons, Pablo, avec... parlons des foules, là, l'état des foules dans la Ligue canadienne depuis le début de l'année. Après 5 semaines, il y a une légère amélioration par rapport à l'an passé. À Montréal, la foule est au rendez-vous lors des 2 prochains matchs. Je pense que ça va être le cas toute l'année. Là, on a vraiment un sentiment... grandissant, l'intérêt grandissant à propos des Alouettes à Montréal. L'effervescence est là, ce sont toujours des soirées, des événements qui sont agréables. Par contre, c'est pas aussi joli partout dans la Ligue. Là. On peut suivre l'ancien joueur de la NFL, là, Luke Wilson, sur les réseaux sociaux, sur X, très, très présent et très critique à ce niveau-là. Donc, il fait parler de lui pour les bonnes, les moins bonnes raisons, mais tout de même, Edmonton, Toronto, Hamilton, les foules sont très minimes. On a vu des matchs où c'était presque désert, ça en était triste. Qu'est-ce qui se passe? On le sait qu'à Edmonton, oui, on a mangé notre pain noir. On a eu une séquence de défaites à domicile absolument épouvantable. C'était bien suffisant pour faire fuir de nombreux partisans. Mais reste qu'on a une équipe professionnelle sur le terrain et parfois, on avait beaucoup moins de spectateurs que pour un match universitaire, voire collégial, là.
Écoute, je me permets de faire un petit éditorial sur Luke Wilson qui en passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un chroniqueur qui va commenter encore la NFL, mais qui commentait principalement la NFL dans les dernières années à TSN, qui honnêtement, c'est quelqu'un qui parle très, très bien à la télévision, puis qui est clair, qui a des bonnes analyses. J'aime l'écouter parler de ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, lui, il est embarqué sur le beat de la CFL cette année à TSN, puis il s'est dit, moi, je vais brasser la cabane ici. Donc, il est arrivé, vraiment? Il s'en est pris à tout le monde. Il a insulté des partisans, puis tu le vois sur les réseaux sociaux. C'est jamais à la télévision en passant, mais c'est toujours sur les réseaux sociaux. Écoute, il insulte des partisans personnellement. Il parle de, il fait des classements des pires partisans de la Ligue à toutes les semaines. Ouais. Il critique. Il a dit que les Tiger Cats avaient la pire base partisane de toute la Ligue canadienne. Ouais. C'est chose que personne n'oserait dire. Puis dans le fond, lui, parlez-en pas, mais parlez-en, je pense que c'est vraiment ce qu'il veut, qu'il souhaite. Est-ce que je suis d'accord avec son approche? T'sais, moi, je suis plus quelqu'un, plus, comment je dirais ça? C'est plus terre à terre, plus c'est plus respectueux des autres. Quand je parle dans les réseaux sociaux, je serais peut-être pas la personne la plus suivie dans le monde. Puis honnêtement, c'est pas ça qui va me faire qui me fait vibrer en fait
Presque qu'il a un point quand même par rapport à l'état des foules dans quelques marchés.
Ouais. Non. Comme je l'ai dit, c'est pas. Pour moi, les points qui touchent sont quand même assez intéressants. Puis c'est le fun d'avoir des discussions là-dessus. L'état des foules, c'en est un. Mais que par exemple, ils viennent critiquer les trois dernières minutes dans la Ligue canadienne, qui pour moi est la meilleure attraction de cette ligue-là. Ça, pour moi, j'ai de la misère à le comprendre. Je sais que lui a joué dans la NFL, puis tu sais, la Ligue canadienne.
Il va prêcher pour sa paroisse, mais quand
exactement.
Même.
Mais tu sais, les trois dernières minutes de la Ligue canadienne, on l'a vu dans le match à Alouette-Lyon, c'est absolument extraordinaire tout ce qui peut se passer, les remontées. C'était fou. Donc, tu sais, c'est vraiment ça pour moi qui fait de la Ligue canadienne une ligue que tu sais, comme waouh. Tu sais, n'importe quel moment, tout peut arriver dans cette ligue-là dans les trois dernières minutes. Mais pour en revenir au point justement des foules qui fait, c'est clair que c'est quelque chose qui fait défaut. Puis lui, tu sais, il a critiqué l'état des foules, mais le problème, c'est que tu sais, c'est quoi les solutions qui viennent avec? Tu sais, moi, c'est ça que j'attends encore de sa part. J'attends justement qu'il ouvre une discussion sur okay, comment est-ce qu'on peut arranger la situation? Parce que pour le moment, il fait juste allumer des feux, mais tu sais, il ne donne pas nécessairement de solution par rapport à ça. Puis moi, il faut qu'on regarde aussi le contexte de ces moments-là. Le match à Calgary, il faisait 4 degrés au début du botté d'envoi. Il pleuvait à Sio. Donc, tu sais, déjà qu'à Calgary, depuis plusieurs années, l'équipe ne fait pas les séries. On fait les séries, mais on a de la misère à se rendre jusqu'au bout. Donc déjà là, on perd des partisans. Puis là, en plus, il fait 4 degrés au mois de juin. Avec la pluie, c'était pas un match où tu as le goût d'être là. Après ça, tu as un match à Saskatchewan qui, pour moi, ne devrait jamais être les jeudis. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là-bas, la majorité des gens... Regina, c'est quand même assez petit, mais la majorité des partisans des Riders en fait, sont divisés en deux marchés, Regina puis Saskatoon. Donc, on a des gens qui font la route de Saskatoon, qui est à 3 heures de route de Regina. Il y a énormément de gens qui font la route pour venir voir les matchs locaux. Mais tu sais, quand
journée
match,
semaine, ça marche pas. Là.
Le jeudi soir, le lendemain, tu travailles, tu vas pas faire 3 heures de route à 11 heures le soir pour rentrer chez toi. Donc, ce côté-là, tu sais, à Saskatchewan, c'est ça pour moi qui explique. Tu regardes les matchs la fin de semaine, on a vu le dernier match, complètement plein. Winnipeg, c'est pas un problème.
Ah non, Toronto, c'est pas un problème du tout.
Toronto, c'est un problème depuis des années. Toronto, c'est pas quelque chose qui s'arrange parce que, qui s'arrange. Je veux dire, on peut faire un meilleur marketing, mais à Toronto, les gens ont tellement d'autres options qui sont.
C'est ça, on est loin dans la liste des priorités.
Loin dans la liste des priorités. Et puis, mon collègue Pierre Vercheval, qui justement a fait un tour justement au bureau de MSI qui l'organise, qui gère justement les Argos. Tu as tous les logos de toutes les équipes, même le club école des Raptors, mais tu n'as aucun logo des Argos alors que tu as suffisamment de place. Et ça donne un peu l'image un peu de à quel point cette organisation-là n'est pas ancrée dans la ville de Toronto. Puis ça, c'est un fait. Hamilton, c'est un peu décevant. Les foules, je vais être honnête avec toi. Donc, tu sais, ça a toujours été un marché qui a bien répondu. Puis Montréal, Ottawa aussi. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment, tu sais, il faut prendre un grand respire. De regarder ça, puis de comprendre un peu les situations. Pour moi, comme je l'ai dit, en Saskatchewan, c'est ciblé. Calgary, c'était un match. Tu regardes le dernier match, on a rempli ça à 25 000 personnes à peu près pour le Stampede Bowl. Donc, tu sais, c'est difficile. C'est facile de regarder des fois comme un élément, mais tu sais, il faut vraiment regarder l'ensemble. Puis de se dire,
et comme tu dis,
faut analyser ça vers la fin de la saison, en fait.
Il faut amener des solutions, puis ça revient à ce qu'on se disait lors de notre épisode précédent, que le nouveau commissaire, ce qu'il a amené, c'est que avant de parler d'expansion, il faut régler la situation dans certains marchés et on le voit avec les foules. Et bien là, contrairement à Luke Wilson, le commissaire, c'est sûr qu'il cherche des solutions avec les nouveaux propriétaires pour faire parler de sa ligue de manière positive. Mais il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans la Ligue canadienne jusqu'à présent. Donc, Pablo, j'aimerais te remercier pour cet épisode. On a 5 matchs des Alouettes derrière la cravate. Il en reste quand même 13 devant nous. Donc, beaucoup de football qui reste à jouer. J'ai trouvé ça important de faire une petite mise à jour de l'état de la situation. Profiter de cette semaine de congé-là pour faire une certaine mise au point. Mais on a vu qu'il y a de très belles choses qui se passent avec les Alouettes jusqu'à présent. Il y a des améliorations à faire toutefois pour ramener cette équipe-là sur le droit chemin. On pouvait se questionner sur qui étaient vraiment les Alouettes de 2025. Bon, je pense qu'il a très bien répondu en disant que on est notre propre ennemi, que cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour avoir du succès, mais ça va prendre un petit peu plus de discipline, autant sur les pénalités que sur les performances. Et je vais te laisser ajouter là-dessus. Là.
Oui, écoute, je voulais juste rajouter un petit dernier point par rapport à ce que j'ai dit par rapport à l'état des foules, parce que moi, tu sais, je regarde ça, Puis moi, je me dis, pour moi, c'est une question aussi de marketing. Puis, tu sais, on parlait de solutions possibles. Pour moi, ça prend un meilleur marketing. Tu as des joueurs absolument extraordinaires dans cette ligue-là. Puis moi, je vais toujours être un fervent défenseur de cette ligue-là. Puis tu regardes, la majorité des joueurs qui viennent jouer ici se rendent compte que le niveau est extrêmement élevé. Puis les joueurs, dans d'autres circonstances, auraient pu jouer dans la NFL. Malheureusement, des blessures, on fait des blessures, de mauvaises circonstances, mauvais timing, fait en sorte que ces joueurs-là se retrouvent ici. Mais tu sais, tu regardes un joueur comme Kenny Lawler, c'est absolument extraordinaire. Puis malheureusement, ce gars-là, il n'est pas suffisamment connu. Non. Puis lorsque tu parles de marketing aussi, c'est être capable d'aller chercher de l'auditoire plus jeune. Tu sais, énormément de. Tu sais, lorsque tu vas faire un match au stade, dans plusieurs stades de la Ligue canadienne, c'est une population un peu plus âgée qui est plus présente au stade. Il faut qu'on aille chercher les jeunes, il faut qu'on aille chercher les nouveaux jeunes. Puis oui, c'est clair que la NFL, c'est quelque chose d'intéressant, mais il faut qu'on ramène justement plus de jeunes au stade. Puis il faut qu'on fasse des campagnes pour justement cibler ces jeunes-là. Tu sais, moi, j'ai. Il y a plusieurs artistes des fois qui peuvent justement amener des plus jeunes au stade.
Les le font très bien leurs concerts.
Oui, exact. Puis tu sais, ça commence à se faire dans la Ligue canadienne, mais il faut vraiment qu'on aille chercher l'auditoire plus jeune. Puis on est capable de le faire. Je pense qu'il y a manière de le faire. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est impossible. Puis moi vraiment, c'est ça que je biserais là-dessus. Mais tu sais, écoute, c'est juste un petit commentaire pour finir là-dessus. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il reste encore énormément de football à jouer. Puis on parlera de cette situation-là lors du prochain épisode. Ça va me faire plaisir d'en parler avec toi parce que pour moi, c'est un sujet qui, tu sais, c'est facile de lancer, d'ouvrir des feux partout puis de dire tu sais, ça marche pas. C'est vrai que ça marche pas, mais tu sais, est-ce qu'on peut trouver une solution conjointement? Est-ce qu'on peut s'asseoir et dire, regarde, voici ce qu'on peut faire pour justement ramener des gens ou plus de gens au stade dans des marchés où il n'y en a pas? Puis d'après moi, il y a des solutions qui sont possibles. C'est juste qu'il faut. Il faut être capable d'être ouvert d'esprit et d'être capable de s'asseoir et de dire « OK, on est capable d'arranger ça. » Il faut juste qu'on trouve la bonne façon.
Dans les 6 prochains matchs, 4 belles rencontres se tiendront à Montréal. Allez profiter du football estival au Stade Percival Molson. Je parle toujours qu'à l'automne, il y a quelque chose de magique d'aller sur la montagne. Oui, c'est vrai, mais l'été, au beau soleil, il n'y a pas d'équivalent. Donc, allez au stade, allez vivre l'engouement, l'effervescence derrière cette équipe-là. C'est fantastique l'ambiance qu'on y retrouve. Arrivé d'avance, il y a toujours des petites célébrations en proximité du stade. C'est très agréable. C'est vraiment très, très, très des beaux moments de vivre les matchs des Alouettes dans la Ligue canadienne. Fait qu'un gros merci, Pablo, encore une fois. On peut te lire sur Three Down Nation et t'écouter à chaque semaine sur le podcast L'Envol. De notre côté, si ça dit, on pourrait se donner rendez-vous à la prochaine semaine de congé à la semaine 13 pour être. Ça nous amènera là, grosso modo là, aux 2/3 de la saison et on pourra préparer, espérons-le, cette marche vers les séries. Donc, un gros merci encore une fois, Pablo. Ce fut extrêmement intéressant, pertinent et agréable de t'avoir autant d'air.
Ça m'a fait plaisir. Puis comme tu l'as dit, les gens peuvent me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir de vous répondre.
Alors, merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.